Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'affaire Frédéric Bourdin, dit le caméléon. C'est une histoire que l'on commencerait volontiers comme un conte aux allures de Peter Pan. Il était une fois un petit garçon qui ne voulait pas grandir et qui ne désirait qu'une seule chose, être aimé. Malheureusement, le garçon ne s'est pas volé, Wendy n'existe pas et Neverland ressemble plutôt à un champ de mines. L'histoire de Frédéric Bourdin est en réalité une tragédie. Durant 15 ans, de 1990 à 2005, ce jeune homme va sillonner la France et l'Europe en se faisant passer pour un adolescent sans famille. Une vie à s'inventer des identités, à en voler d'autres, à voyager aux quatre coins du monde, de foyer pour mineurs en famille d'accueil, pour finir derrière les barreaux. Cette étrange odyssée personnelle inspirera quantité de livres, de films, de documentaires. Tous s'achèvent sur cette question sans fond, mais qui est réellement Frédéric Bourdin ? Notre invitée aujourd'hui, la psychanalyste Kathleen Kelly-Lenné, auteur d'un ouvrage intitulé « Peter Pan ou l'enfant triste », réédité aux éditions Calman-Lévy en 2005. Affaires sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Ça commence comme ça, avec Frédéric Bourdin. D'une cabine téléphonique, il appelle un foyer pour mineurs. Il transforme sa voix, travestit son nom et se fait passer pour un policier ou un touriste de passage, inquiet d'avoir trouvé sur le bord de la route un adolescent esselé et apeuré. Puis il décrit le jeune homme. Brun et mince, mâchoire carrée, casquette sur la tête et sa côte d'eau. Oui, faites vite, il a besoin d'aide. Frédéric Bourdin raccroche et se met en place, prostré sur le bitume en attendant que les secours arrivent. Car l'adolescent sans famille, c'est lui. Sauf que cela fait bien longtemps qu'il n'est plus mineur. Pourtant, son physique juvénile et ses talents d'acteur finiront par convaincre les services sociaux. Pendant un temps, oui, ils le prendront sous son aile, jusqu'à ce qu'il soit démasqué. Ce garçon a de la fuite dans les idées, oui, une fuite sans fin. Reprendre la route, s'inventer une autre identité, atterrir dans un nouveau foyer, quémander un toit pour quelques mois, de la chaleur, un peu d'amour surtout. Voilà à quoi ressemble sa vie depuis 15 ans. Un parcours sinueux, constitué de mensonges et de provocations qui lui ont valu de passer la moitié de sa vie d'adulte derrière les barreaux. Mais c'est la voie qu'il s'est tracée, ou plutôt, comme il le dit, la voie qui s'est imposée à lui. Frédéric Bourdin naît le 13 juin 1974 aux Marguerites, cité des Labres et de Nanterre, dans la banlieue ouest de Paris. Sa mère, Ghislaine, a 17 ans lorsqu'elle tombe enceinte. Pendant sa grossesse, elle apprend que son petit ami, un ouvrier algérien de 25 ans, est déjà marié au pays, oui, père de 6 enfants. Alors on lui conseille d'avorter, elle refuse, et décide d'élever seul Frédéric, qui ne connaîtra jamais son père. Et entre son travail à l'usine et les sorties en discothèque, l'enfant reste seul des nuits entières, aux grandes dames des grands-parents qui alertent les services sociaux. Et ils obtiennent la garde. Frédéric a 2 ans. Et voilà un crouille dans la famille, note le grand-père dans ses carnets remplis de haine raciste. Quelques années plus tard, c'est le déménagement à Mouchamp, un village de Vendée, loin de la mer, qui depuis a refait sa vie. À l'école déjà, Frédéric Bourdin trouve refuge dans un monde imaginaire, des fables dont il est le héros. Il raconte que son père est un espion ou un milliardaire, appelle les pompiers en secret pour de faux incendies, s'amuse à transformer sa voix dans le dos de l'institutrice. Ses camarades l'adorent, les adultes s'enlacent. Enfant turbulent et agité, note ses professeurs. Premier mensonge, première bêtise. C'est au même moment, entre 6 et 11 ans, qu'il affirme être victime d'abus sexuels de la part d'un voisin. Ses grands-parents ne croient pas. Décidément, ce gamin ne manque pas d'imagination, pense-t-il tout haut. Eux aussi d'ailleurs s'enlacent. À 12 ans, Frédéric est placé dans un foyer pour mineurs à Grésilières, près de Nantes. Abandonné pour la deuxième fois, il va y rester 4 ans. Des années difficiles qu'il raconte au micro de France Culture dans l'émission Le Vif du Sujet en 2005.
Comment ça se passait la vie dans les foyers quand vous étiez adolescent, enfin avant 18 ans ?
Eh ben, ça a commencé par des abus physiques et sexuels de la part d'autres garçons, de garçons de entre 14 et 17 ans vis-à-vis des plus jeunes, entre 10 et 12 ans. Et puis, à partir de 14 ans, ça s'est stabilisé, c'est-à-dire que je n'étais plus victime de ce genre de choses. Et j'étais dans un groupe déjà où qui était mieux, où j'allais à l'école à l'extérieur, où c'était un foyer qui n'était pas facile, avec beaucoup d'incompétents qui y travaillaient, avec beaucoup de souffrance, mais en même temps, il y avait une sensation de régularité, de stabilité. C'était ma stabilité, c'était devenu chez moi.
Mais il va falloir la quitter, cette nouvelle famille cabossée, encore une fois. À 16 ans, Frédéric Bourdin est envoyé dans un nouveau foyer, à Angers. Ses responsables veulent le placer en classe d'apprentissage, mais il refuse, car il préfère l'école, lieu de l'insouciance. Les adultes ne veulent rien savoir. Alors pour la première fois d'une longue série, il choisit la fugue, la vraie. Il part en autostop à Paris, et face aux gendarmes, il s'est fait passer pour Jimmy Salé, un Britannique de 14 ans. Problème, c'est que Frédéric ne parle pas un mot d'anglais. Il est donc renvoyé à Angers. Après cette première fuite, je ne me suis plus arrêté, dit-il. Mais j'ai beaucoup amélioré ma technique. Je me suis servi de mon talent de caméléon. Pendant 6 ans, de 1991 à 1997, il va en effet sillonner la France et l'Europe sous de fausses identités, de foyers pour mineurs en hôpital psychiatrique. De mémoire, il en décompte 137. À travers la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Luxembourg et l'Autriche. Et de la mémoire, Frédéric Bourdin en a beaucoup. D'ailleurs, c'est son arme. Une forme d'intelligence, dit-il. Un point sur lequel tous ceux qui l'ont rencontré sont d'accord. Il est d'une intelligence supérieure à la moyenne. Mais pas seulement. Ils se souviennent aussi d'un garçon dans une souffrance inouïe qui rentrait pâle et fatigué de chacune de ses fugues.
En Belgique, j'ai dit que je m'appelais Robin Morris. Jimmy Morris, c'était au Luxembourg. En Suisse, c'était Manfred Petrullo. En Espagne, me llamaba Marco Fernández Fernández. En Italie, je suis Alex Dole. En Deutschland, j'ai été Jimmy Salé. En Amérique, en England et en Scotland, I was Benjamin Kent. I was Legion Raskovich. And it's a sad story too.
Il y a tout de même une constance dans les personnages que joue Frédéric Bourdin sur la route. Il se présente toujours comme une victime, mutique et traumatisée. Avec des méthodes dignes de l'acteur studio, il use de tout son talent de comédien pour se rajeunir aux yeux des autres et jouir aussi longtemps que possible des privilèges de l'enfance, autrement dit être écouté, plein, soigné, choyé. Un penchant singulier qui va bientôt attirer l'attention des médias. En novembre 1993, à Auch, dans le Gers, le journal La Dépêche interviewe ce jeune homme qui pendant une semaine a trompé les gendarmes, prétendant un jour qu'il était muet, l'autre qu'il était catalan. Démasqué, il raconte aux journalistes son étrange odyssée personnelle à travers l'Europe avec force détail. Il goûte alors à l'ivresse de la célébrité et il en redemande. En février 1995, c'est sur le plateau de l'émission Tout est possible, présenté par Jean-Marc Morandini, qu'il apparaît. Il a 21 ans, affichant cet aspect juvénile et cette assurance qui ne le quitte pas.
Ça se passe comment quand tu arrives dans un pays ?
Alors, en général, j'y arrive par autostop et je me mets en pratique très vite.
C'est-à-dire ?
Exemple, j'ai été à Munich et je me suis allongé sur une autoroute. À partir de là, donc, je dis que j'ai 14 ans en général quand je fais ce coup-là. Comme ça, ils me conduisent dans un hôpital pour enfants. Et donc les infirmières vont montrer une affection et un amour absolument incroyable, une passion suite à l'histoire que je vais leur raconter.
Tu vas pas pouvoir rester un enfant toute ta vie en
même temps. Ah oui, c'est le problème. À partir de 18 ans, on est un homme, on est un adulte, on est responsable pour soi-même. Et moi, j'ai ressenti le besoin, à 18 ans, que j'avais encore besoin de personnes qui m'aimaient et qui se responsabilisaient pour moi.
Mais outre l'intérêt des médias, ces trafics d'identité lui valent aussi d'être fichés par les services d'Interpol. Au Royaume-Uni, il est arrêté pour fraude. En France, il est condamné à 3 mois de prison avec sursis pour outrage à magistrat par le tribunal de Dijon et à 5 mois pour dénonciation mensongère à Nice. Enfin, en août 1997, à 23 ans, il est condamné une troisième fois en son absence à 5 mois de prison par le tribunal correctionnel du Havre. L'étau se resserre, il faut qu'il parte. Après un bref détour chez son grand-père à Mouchamp, il prend de nouveau le chemin de l'Espagne, comme il l'a fait tant de fois, sac au dos, sans un sou en poche. Pas grand-chose ne l'arrête, Frédéric Bourdin, même pas la prison. En Espagne, il a ses habitudes et parle la langue. Après Burgos, Séville et Malaga, il s'est fait admettre sous une fausse identité, toujours, au foyer pour mineurs, à Linares. Très vite pourtant, les autorités ont des doutes sur ce jeune homme qui leur paraît plus âgé que ce qu'il prétend. Au bout d'un mois, en octobre 1997, leur conviction n'est pas loin d'être faite. Ils pensent avoir affaire à un imposteur confirmé, majeur de surcroît. Son profil pourrait correspondre à la fiche Interpol d'un certain Frédéric Bourdin. Ce dernier, rodé à l'exercice, reprend les choses en main. Il sait que cette fois, il ne s'en sortira pas en inventant tout bien son personnage, non. La méthode a ses limites. Alors, dans l'urgence, il change de tactique. Pour la première fois, il va prendre l'identité d'un autre, l'identité d'un adolescent porté disparu. Et c'est aux États-Unis qu'il va le chercher, pays immense de 280 millions d'habitants où aucun service de police n'a jamais entendu parler de Frédéric Bourdin, bien sûr. En surfant sur un site internet, il découvre l'histoire de Nicholas Barclay, un enfant de 13 ans disparu à San Antonio, Texas, il y a 3 ans, le 13 juin 1994 exactement, jour anniversaire de la naissance de Bourdin. Tiens donc, mauvais présage. Il décide de ne pas en tenir compte et parvient à se faire faxer la fiche de renseignement de l'inconnu américain. Aujourd'hui, ce jeune homme devrait avoir 17 ans, les yeux bleus, les cheveux blonds et plusieurs tatouages sur le corps. Sur ce dernier point, Bourdin se débrouille avec une copine du foyer qui, disons, manie un peu l'aiguille. Il se décolore les cheveux et utilise de la crème dépilatoire pour retarder la pousse de sa barbe noire. Pour les yeux, en revanche, ça se complique, il les a marron. Bon, qu'importe, cela fera partie de son histoire. Il appelle alors directement le San Antonio Police Department en se faisant passer pour un responsable du foyer de Linares. Et il raconte son histoire. Ils ont ici un ado, dit-il, qui dit s'appeler Nicholas Barclay. Il raconte qu'il a été kidnappé par des militaires américains, drogué et envoyé clandestinement en Europe comme esclave sexuel. Ce sont ces mêmes militaires qui, pour empêcher toute identification, auraient changé la couleur de ses yeux en lui injectant des produits chimiques. Incroyable mais vrai. Quelques jours après son appel, la demi-sœur de Nicholas, Carrie Gibson, débarque en Espagne. En voyant celui qui dit être son frère, elle pense « Oh, mais c'est le portrait craché, donc le patte !» Alors elle fond en larmes dans ses bras. Puis tout s'accélère. Bourdin passe avec succès un dernier interrogatoire dans le bureau du procureur espagnol, obtient un passeport américain au nom de Nicholas Barclay et s'envole pour San Antonio, Texas. En 1999, face aux caméras d'envoyé spécial diffusées sur France 2, il se souvient de son arrivée rocambolesque au pays des cow-boys. C'était le 18 octobre 1997.
San Antonio, quand je suis sorti, sur le couloir, j'étais terrorisé. J'étais tout. Je me suis dit, ils vont m'assassiner, ils vont me pendre. Et puis, au moment où je les vois tous, qui se jettent sur moi, eh ben, bon, je ressens plus rien. Je sens plus rien. Je me dis, ça y est, c'est complètement fou. Je pensais même plus, je crois même plus que je pensais. Je crois que la seule chose que j'ai dit dans l'aéroport, ça a été... Yes, haha, yes.
Quelle étrange scène de retrouvailles, immortalisée en vidéo par un membre de la famille. On y voit Frédéric Bourdin grimé en Nicholas Barclay, caché derrière des lunettes noires, une casquette enfoncée sur le front et une écharpe qui lui cache le menton. Beverly Dollarhide, la mère, s'approche avec hésitation, le serre un bref instant dans ses bras avant de se retourner l'air incrédule devant la caméra. La suite n'est pas moins étonnante. Nicholas, alias Frédéric, ne va pas habiter chez sa mère, comme il l'a toujours fait, non, mais chez sa demi-sœur, Carrie. trop de stress, se justifie Beverly. Un détail parmi d'autres qui alerte le FBI. Les services fédéraux se saisissent en effet de l'affaire. Si l'histoire du kidnapping par des militaires américains pervers de surcroît est avérée, il s'agit d'un crime fédéral. Une histoire un peu grosse tout de même pour l'agent Nancy Fisher. Sans parler des yeux du jeune homme, de son accent à couper au couteau. Bref, elle mène enquête. Pendant ce temps, Frédéric Bourdin découvre sa nouvelle vie. Il a là une chance inespérée de tout reprendre à zéro et compte bien la saisir. Enfin, une chance. Mais la famille recomposée de Nicholas Barclay ressemble à un mauvais film américain. Banlieue de Mobile Home, version white trash, à plus de 50 ans. La mère, elle, est alcoolique et héroïnomane, idem pour le fils aîné Jason. La demi-sœur, Carrie, tente, elle, de joindre les deux bouts honnêtement entre ses enfants et son salaire de misère. Mais malgré ce contexte dramatique, Frédéric Bourdin, alias Nicholas, s'adapte. Il est le caméléon. Il retient les noms, les histoires de tous les membres de la famille et retourne sur les bancs du lycée. Il amuse son monde en se déhanchant sur Michael Jackson. Le King of Pop est son idole. Par chance, elle était aussi celle de Nicholas. Puis c'est sur les plateaux de la télé américaine qu'il vient raconter son histoire de kidnapping. Ce martingale des temps modernes devrait se faire discret, mais il ne peut résister à son penchant immodéré pour la gloire. This is CNN. Côté FBI, l'agent Nancy Fisher poursuit son enquête. Car rien ne colle dans cette affaire, à commencer justement par la famille. Alors que son fils prétend avoir été victime de sévices sexuels pendant 3 ans, Beverly, la mère donc, refuse obstinément de l'amener voir un médecin. Le FBI et les services sociaux ne veulent pas la brusquer, bien sûr, après tout, elle aussi est une victime. C'est alors que le comportement de Frédéric Bourdin change brutalement. Au bout de 2 semaines, il s'est fait exclure du lycée et vole la voiture de sa demi-sœur, Carrie. Il est arrêté 800 km plus loin pour excès de vitesse. En fugue, encore une fois. L'agent Nancy Fisher saute sur l'occasion. À bout de nerfs, la famille autorise enfin la consultation d'un expert médical. Dans l'émission envoyée spéciale, l'agent du FBI raconte l'incompréhensible réaction de Carrie face aux conclusions sans appel du praticien.
Je l'ai donc emmené voir un psychiatre. Après l'avoir interrogé, il m'a dit, j'ignore si c'est Nicholas Barclay ou non, mais je suis sûre d'une chose, ce garçon n'est pas américain. Il a expliqué que c'était une question de syntaxe, de grammaire. Quand des gens sont maintenus en captivité pendant plusieurs années, comme des prisonniers de guerre par exemple, et qu'on leur interdit de parler leur langue maternelle, ces personnes retrouvent la maîtrise de leur langue maternelle dès leur retour au pays. Ils perdent aussitôt l'accent qu'ils ont pu développer pendant leur captivité. Alors, j'ai immédiatement appelé Carrie Gibson, la sœur, et je lui ai dit, j'ignore qui est cet individu, mais ce n'est pas votre frère. Elle est devenue hystérique au téléphone. Je lui ai dit qu'elle n'avait pas besoin d'être là à notre retour à San Antonio, que je prenais la situation en main, que j'allais le placer en détention. Elle a dit d'accord. Mais quand on est arrivé à San Antonio, elle nous attendait et elle est repartie avec lui comme s'il ne s'était rien passé.
En février 1998, 3 mois après l'arrivée de Bourdin aux États-Unis, l'agent Fisher obtient de son côté une injonction du juge contraignant mère et fils à donner leur sang. Le résultat de la comparaison ADN est une évidence. Ce jeune homme n'est pas Nicholas Barclay. Interpol enfonce le clou. Il s'agit de Frédéric Bourdin, un Français décrit comme, je cite, un jeune homme extrêmement intelligent qui s'est fait passer à de nombreuses reprises pour un mineur victime d'abus sexuels en situation de danger afin de susciter la sympathie et de manipuler les autorités. Voilà. Lorsque le FBI vient lui passer les menottes, le caméléon n'oppose aucune résistance. Au fond, c'est lui qui a sifflé la fin de la partie. Quant à la réaction de la mère, elle vaut le détour. « Je vous attendais, dit-elle au FBI. Qu'est-ce qui vous a pris aussi longtemps ?» ajoute-t-elle. Étrange tout de même. Depuis quand avait-elle compris que ce n'était pas son fils ? Le 16 mars 1998, Frédéric Bourdin est mis en examen pour 6 délits différents, dont déposition mensongère aux enquêteurs fédéraux et procuration d'un passeport américain par des moyens frauduleux. Théoriquement, il risque 45 ans de prison, ramené à 25 s'il plaide coupable, ce qu'il fait. Mais, comme à son habitude, il ne s'arrête pas là. En détention provisoire, à la prison de Floresville, à côté de San Antonio, il trompe l'ennui de sa cellule en passant des dizaines d'appels. Aux journalistes d'abord, qui s'emparent de son histoire, de celle de Peter Pan mal-aimé. Puis à des centres d'information pour enfants disparus. Il prétend savoir où se trouvent certains mineurs recherchés d'ailleurs. Il dit aussi qu'il a réellement connu Nicolas en Espagne et qu'il fera bientôt sa réapparition. « J'avais plus les idées claires », dit-il aujourd'hui. Pourtant, il y a bien une démarche qu'il a entreprise consciemment. Quelques jours avant son jugement, Bourdin appelle en PCV la brigade criminelle de San Antonio et déclare « Nicolas est mort et j'ai des informations ». Sa mère, Beverly, m'a tout raconté un soir d'ivresse. Mais qui pourrait bien écouter encore les délires de Frédéric Bourdin ?
J'ai pitié pour lui. J'ai vraiment pitié pour lui. Il est trop jeune. C'est pas normal. Hein. Il a dû lui arriver quelque chose de vraiment terrible dans son enfance pour qu'il soit comme ça aujourd'hui. Il n'a pas de sentiment pour les autres. C'est comme s'il n'avait aucun sentiment. Il est froid et calculateur. C'est un manipulateur. Il y a eu une époque, au début, où il était très affectueux. Il y avait des choses chez lui qui étaient très touchantes. Il y a des choses que je ne comprends pas. Je comprends qu'il ait voulu venir aux États-Unis, tout ça. Mais je ne comprends pas pourquoi il a été aussi dur avec nous à la fin. Il savait qu'il allait être arrêté, mais ce n'était pas de notre faute. Nous, on a essayé de le protéger, de tenir à distance le FBI. Jusqu'au bout, ma fille a dit, c'est mon frère. C'est mon frère, j'en suis sûre.
Dans cette interview accordée au journaliste d'Envoyé spécial en 1999, la mère de Nicholas Barclay, Beverly, apparaît comme une femme brisée, trompée par Frédéric Bourdin. On ne serait à moins. Pas rendez-vous compte, pendant 4 mois, elle a cru qu'il était son fils. Une version que conteste pourtant le Français aux enquêteurs américains quelques jours avant son procès. De victime, Beverly serait en réalité coupable. Un soir où elle était ivre, dit-il, elle lui aurait en effet avoué avoir assassiné Nicholas avec l'aide de son fils aîné, Jason. Selon Bourdin, l'enfant de 13 ans les menaçait de les dénoncer à la police pour consommation de drogue s'ils acceptaient son placement en foyer. Il aurait répondu par les coups mortels. L'histoire de Frédéric Bourdin est invérifiable et disons qu'il peut difficilement être considéré comme un témoin crédible. Pourtant, dans le dossier sur la disparition de Nicholas Barclay, des éléments viennent appuyer les dires de Frédéric. En effet, juste après la disparition du vrai Nicholas, il y a 3 ans, des rumeurs de maltraitance circulaient avec insistance. Le frère, Jason, est réputé violent et toxicomane. D'ailleurs, il attendra 6 semaines pour rencontrer Frédéric, alors que sa mère et sa sœur jurent qu'il s'agit bien de Nicholas. Pourquoi ne veut-il pas voir celui qu'on annonce comme son frère? Parce qu'il sait qu'il est mort? Pourtant, malgré tous ces éléments déroutants, l'affaire est aujourd'hui close. On ne saura jamais ce qui est réellement arrivé à Nicholas. Quoi qu'il en soit, ces révélations de dernière minute n'arrangent pas les affaires de Bourdin. Au contraire, cet épisode est perçu comme une nouvelle preuve de sa perversité. Le procureur, Jack Stick, ne cache pas qu'il met un point d'honneur à obtenir la peine la plus lourde possible. Et c'est chose faite le 17 décembre 1998. Il est condamné à 6 ans d'emprisonnement, une peine 3 fois plus sévère que la jurisprudence en vigueur. L'inculpé, en larmes, se retourne une dernière fois vers Carey et Beverly, s'excuse et d'une voix tremblante se déclare victime de ses propres mensonges. Il le répète quelques mois plus tard aux journalistes de France 2, depuis sa prison de Floresville.
C'est pas n'importe qui peut faire ça. Ça demande de l'intelligence. Pas de la cruauté. J'ai fait ça simplement pour avoir de l'affection. J'ai pas fait ça pour aucun mine. Je suis pas venu ici pour faire du mal à qui que ce soit. J'ai pas fait ça en disant ha, 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 je vais les avoir. Non. J'ai fait ça simplement pour de l'amour. J'ai besoin d'avoir ce que je n'ai jamais eu. Un papa, une maman, des frères, des sœurs, une école, des gens qui s'intéressent à moi. Vous avez vu ce que je fais pour l'avoir? Je fais des milliers de kilomètres. C'est un suicide mental ce que je fais. Je suis un prisonnier de moi-même.
Frédéric Bourdin va donc passer 6 ans derrière les barreaux, 6 ans en combinaison orange. Ses talents de caméléon et sa connaissance de l'espagnol lui permettent de rester en vie. Il se glisse dans la peau d'un Mexicain, membre du gang des Bébés Paisa. Il emporte d'ailleurs les stigmates. Sur la joue gauche, une larme tatouée à l'encre verte. Sur ses bras, on peut lire « Pura Paisa » et « Caméléon Nantais » son nom de guerre. En 2001, il complète le tableau en s'inscrivant le nom d'Oussama Ben Laden sur la poitrine. Une énième provocation qui épate ses compagnons d'emprisonnement. Il est transféré à 10 reprises d'une prison à l'autre. Une victoire personnelle, dit-il.
Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Ceci est le tout dernier appel avant la fermeture des portes du vol Air France. 055 à destination de Paris-Charles de Gaulle. Nous invitons tous les clients à embarquer immédiatement en porte avant et à 22. Merci.
Le 15 octobre 2003, soit presque 6 ans jour pour jour après son arrivée aux États-Unis sous l'identité de Nicholas Barclay, il est libéré et envoyé vers Paris. À sa descente d'avion, c'est la police française qui l'attend. En France, Bourdin est en effet sous le coup d'une peine de 5 mois pour dénonciation mensongère. Quelques jours plus tard, il bénéficie du pardon de la justice. Les compteurs sont remis à zéro, une nouvelle chance lui est accordée. Mais sa tentative de retour à la vie normale est une fois de plus un échec. Il n'a pas su se réconcilier, ni avec sa mère, ni avec son grand-père, son seul point d'ancrage potentiel. Et seulement 4 mois après son retour, le voilà de nouveau sur la route, sans un sou en poche et nulle part où aller. Il s'est débarrassé de ses papiers d'identité, voyage en autostop, le ventre vide, comme avant. Mais dans quelques mois, Frédéric aura 30 ans. Peut-il encore se faire passer pour un mineur isolé? Il veut y croire et recommence à se raser méticuleusement, à s'habiller comme un ado, survêt, casquette et basket. Il prend la direction de l'Angleterre, puis revient en France le 21 février 2004. Fatigué soudain de cette vie d'errance, il fait le choix de retourner en prison. Et il le raconte au micro de France Culture dans l'émission Le Vif du Sujet, en 2005.
Une fois que je suis retourné d'Angleterre, j'ai vu Léo Ballet, petit garçon de Grenoble qui a disparu à l'âge de 6 ans. Et j'ai dit, tiens, je vais être Léo Ballet. Juste pour quelques jours. Parce que pour moi, il n'y avait absolument aucun doute qu'un garçon qui disparaît à l'âge de 6 ans et qui revient 8 ans plus tard, on ne va pas le prendre sur parole. Là, c'était possible physiquement. Mais l'ADN, je savais très bien qu'elle serait prise. Les empreintes, les photos aussi, éventuellement. Donc, ils m'ont attrapé, j'aurais dit que j'étais Léo Ballet, j'aurais donné l'ADN, j'ai attendu le résultat, ils m'ont traité comme de la merde. Et une fois qu'ils ont découvert que j'étais Frédéric Bourdin, ça les a fait beaucoup rire et... Ils m'ont envoyé en prison pendant 4 mois, puis j'ai été libéré, je suis dans l'attente de ce procès. Donc je n'ai pas d'excuses non plus vis-à-vis de ça. Mais je l'ai fait par colère. Je ne l'ai pas fait avec l'idée que je réussirais un tel coup, dans le sens que c'était pas possible.
Dans son édition du 28 février 2004, le Dauphiné Libéré fait le portrait de cet individu aux inquiétantes allures d'ado qui aime se faire passer pour un enfant disparu. À 30 ans, il est parvenu pendant 3 jours à se faire passer aux yeux des gendarmes pour un ado de 14 ans. Mais après les résultats ADN, le directeur de l'enquête a vu l'adolescent apeuré se transformer sous ses yeux en adulte furieux à la voix grave. Il en est resté marqué. Il avait un visage juvénile, un corps svelte, témoigne-t-il. Il soignait sa voix, ses postures, ses réactions. Par moments, il éclatait d'un rire d'enfant timoré. Avec le recul, c'est très perturbant. Mais pourquoi un adulte voudrait-il prendre la place d'un enfant mort? Pourquoi Frédéric Bourdin veut-il encore vivre dans des foyers pour mineurs? C'est que, chez lui, le refus du monde adulte n'est pas une vaine formule. Il veut prolonger aussi longtemps qu'il le pourra l'enfance dont il estime avoir été privé. Seule la nature et cette lente dégénérescence des cellules contre laquelle personne ne peut rien l'obligeront à s'arrêter un jour. Et ce jour-là, sa vie basculera. Vers où? Vers quoi? Il ne le sait pas. Le 23 juin 2004, après 4 mois de détention à la maison d'arrêt de Vars en Isère, il est remis en liberté. Trouver un travail, une épouse, une stabilité ne font toujours pas partie de ses projets. Il se dit d'ailleurs asexué. Un an plus tard, on le retrouve à Orthez, dans les Pyrénées, où il rejoint inlassablement la même scène. D'une cabine téléphonique, il appelle le numéro d'urgence pour enfants portés disparus. Il explique fébrilement qu'il était un touriste de passage et qu'il est tombé à la gare sur un garçon de 15 ans, seul et terrifié. Puis il est admis aux services sociaux, cette fois sous le nom de Francisco Hernández Fernández, orphelin espagnol. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, son stratagème fonctionne encore. Placé en famille d'accueil, il est inscrit au collège Jean Monnet de Pau. Et il va rester pendant un mois en classe de quatrième alors qu'il a 30 ans. Et comme lorsqu'il était enfant, ses camarades de classe l'adorent. Il y avait cette espèce d'aura chez lui, ce charisme, se souvient un enseignant. La principale de l'époque, elle, n'en revient toujours pas. Elle témoigne en 2010 dans un nouveau numéro d'envoyé spécial consacré à l'affaire.
Le plus étonnant, c'est que, d'abord, malgré ses 30 ans, les élèves l'adoptent exactement comme s'il avait 14-15 ans. C'est-à-dire qu'il connaît tous les codes de langage, de culture des adolescents. Il est exactement comme eux, c'est-à-dire emmitouflé, dans de grandes écharpes, des bonnets. Il avait un foulard et une casquette, lui, mais d'autres ont la capuche, enfin...
Jusqu'au jour où un adjoint de Claire Chadourne regarde une émission consacrée à l'usurpateur. Au collège, on comprend que Francisco Hernández Fernández n'est autre que Frédéric Bourdin.
J'ai envoyé mon adjoint chercher Francisco dans la classe et en lui disant que je voulais le voir pour ses problèmes d'orientation sur la fin de l'année. Et quand il est arrivé dans mon bureau, les policiers étaient cachés derrière la porte. Quand il a ouvert la porte, ils l'ont plaqué contre le mur. Et puis ensuite, ils l'ont retourné, ils lui ont demandé d'enlever son foulard. Et à ce moment-là, donc, la voix d'enfant que je connaissais s'est transformée en voix d'adulte. Et il a dit « Je veux un avocat ».
Après l'épisode de Pau pour lequel il écope de 4 mois de prison avec sursis, Frédéric Bourdin reprend la route. Mais il est arrivé au bout du chemin. En 2005, à 31 ans, il abandonne définitivement ses impostures affectives. 2 ans plus tard, il rencontre enfin l'amour, le vrai, aux côtés d'Isabelle. Elle avait repéré dans ce fameux reportage d'Envoyé spécial dont vous avez entendu quelques extraits au cours du récit. Elle aussi a eu une enfance difficile. Elle aussi préférait s'enfuir dans un monde imaginaire. Alors, elle lui a écrit, ils se sont rencontrés, puis ils se sont mariés. Depuis, ils vivent un peu repliés sur eux-mêmes, près du Mans. Ils ont 5 enfants, pas 6.
Jamais ce que je vais retrouver.
Inter, affaires sensibles, Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le cas Frédéric Bourdin, notre invité Kathleen Kelley, l'aînée, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste et auteur d'un ouvrage intitulé « Peter Pan ou l'enfant triste », réédité aux éditions Kalman-Lévy en 2005. Alors, on va pas aller sur le terrain du diagnostic clinique, qu'on peut pas faire à distance, bien sûr, pour une personne. Enfin, quelles sont vos impressions déjà sur cette histoire, ce parcours si singulier, qu'on va pas refaire toute l'histoire? Qu'est-ce qui vous frappe le plus?
Écoutez, c'est quelque chose qui est quand même connu, enfin, dans notre métier.
Oui.
Pas à ce point. Enfin, il est très intelligent, très inventif, très courageux quand même de faire tout ça. Mais je parlerai du double pathologique.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'un bébé qui se déprime comme bébé, un bébé dépressif. Qui n'a pas le regard de sa mère, qui n'a pas l'investissement de sa mère, et qui peut pas s'identifier, parce que les bébés ont besoin des rêves de leur mère, des regards de mère, de paroles de la mère pour sentir exister. Et quand un bébé n'a pas ça, il faut qu'il invente quelque chose. Et c'est là où on parle de double pathologique, parce que, bon, je ne vais pas aller dans les langages techniques.
Non,
je voudrais expliquer ça.
Pour l'instant, ça va.
Oui, ça va. D'accord. C'est-à-dire que le bébé, puisqu'il n'est pas investi, il ne peut pas s'investir. Mais quand même, il faut qu'il fasse quelque chose. Donc, ce qu'il fait, c'est presque, si on peut imaginer, il grandit très vite, là.
Oui.
Il devient, il doit survivre. Et c'est, psychologiquement, il n'a aucun outil de, il n'a pas le temps de, il n'a pas d'outil de faire face à un monde effrayant. Parce que, imaginez, quand on arrive dans le monde, on est entouré par des géants. Et on ne sait pas, on a aucun repère. Donc, on dépend de la mère, de l'entourage pour avoir une sorte de petit passage, d'être d'accord, d'être accepté même quand on pleure. On peut être un nouveau-né, on a le temps d'être un nouveau-né entouré, protégé.
Donc ça, il ne l'a pas.
Il n'a pas ça.
Bon. Et qu'est-ce que ça induit alors ?
Alors, ça induit qu'il s'identifie à sa mère.
Oui.
Un peu comme si il essaye d'être sa propre mère.
D'accord, mais par
donc
rapport...
Donc il se double.
Il se double. Et par rapport au lien avec notre histoire, avec son histoire,
histoire, écoutez, il ne fait que se dédoubler, tout le temps.
D'accord.
Il essaie d'être dans le pot de l'autre pour pouvoir...
Et il y arrive bien, d'ailleurs.
Oui, et bon, c'est pervers dans le sens où il ne peut pas être aimé comme ça. Mais c'est sa manière de s'aimer, c'est d'être quelqu'un d'autre.
Bien, je comprends. Mais l'autre thèse, alors c'est peut-être aussi, elle est peut-être liée à celle-là, c'est qu'il considérerait qu'on lui a volé son enfance. Et puisque les adultes ont volé son enfance, et ben lui, il va la rallonger de 10 ans. Bah, ça tient ça ?
Non, mais ça, c'est sûr que ça, c'est... C'est-à-dire qu'il y a un blocage et la maturation n'est pas possible. Il ne peut que se répéter. C'est comme Peter Pan. Peter Pan ne veut pas grandir, quoi qu'il arrive. Il ne fait que répéter, et il oublie chaque fois qu'il vit une aventure, les uns les plus grands que possible, comme lui. Après, pouf, ça s'en va. Il oublie et il fait une nouvelle aventure. Donc, il est bloqué. Il n'y a pas de maturation. La maturation, c'est la transformation de soi. Si on n'a pas d'identité, on ne peut pas se transformer. Il est voué à la répétition.
Parce que ça veut dire que si on voit cette histoire au premier degré, on pourrait se dire qu'il prend un certain plaisir à mystifier son monde.
Oui et non. Enfin, c'est pour ça. On peut dire que c'est pervers, parce qu'à la fois, c'est du plaisir et c'est de la souffrance.
Bien sûr. Le syndrome de Peter Pan.
Oui.
Alors, je vais vous demander un exercice infernal parce que vous y consacrez tout un livre et je vais vous demander de me résumer ça en quelques mots. Qu'est-ce que c'est
tout
ça ?
Le livre ?
Non, le syndrome de Peter Pan, oui, le syndrome de Peter Pan.
Bon,
donc
alors,
le refus de grandir, okay. Mais pourquoi ?
Alors, Peter Pan, on sait, il est parti le jour de sa naissance. D'accord ? Parce qu'il n'aimait pas ce que les parents disaient au-dessus de son berceau. Ça, c'est une des versions.
Ouais.
Mais j'ai envie de parler de J.M. Barrie, l'auteur. Parce que l'auteur, Frédéric Bourdin, il invente des tas de personnes et il le vit. Barrie était un peu dans la même situation, sauf que lui, il a inventé d'autres histoires. Il est devenu dramaturge et il a vécu ça comme ça. Mais il ne voulait jamais grandir et il a toujours avait besoin d'être avec les enfants. Il a aussi... Il s'est inséré dans une famille où les parents sont morts, et puis peut-être pas par hasard. Il ne les a pas tués comme ça, mais psychiquement. Il a été tel que le père était complètement évincé, il est mort, la mère aussi. Bon, bref. J.M. Barrie, à 6 ans, vit une grande tragédie, c'est-à-dire que son frère meurt et la mère tombe en dépression. Elle ne peut plus le regarder. La grande sœur voit ses petits garçons en train de pleurer devant la porte fermée de sa mère qui est enfermée dans la dépression. Et la sœur dit « Vas-y, dis à notre mère qu'elle a encore un garçon. » Donc il entre et il pleure et la mère dit « C'est toi ?» Et il pleure et elle dit « C'est toi ?» et il répond une chose qui est déchirante. Il dit « Maman, ce n'est pas lui, ce n'est que moi. Que moi.
Mmh, » J'entends bien.
Et il devient quelqu'un quand il s'habille dans les vêtements de son frère et il apparaît devant sa mère avec...
Voilà, et il devient quelqu'un. Et on revient à notre Frédéric Bourdin, finalement. Voilà. Alors, sur cette enfance dont il dit avoir été privé, ce que je vous disais tout à l'heure, on va écouter une archive, extraite du reportage L'Envoyé spécial, toujours diffusé en 1999. Il s'agit de la mère de Frédéric Bourdin, qui revient sur les premières années de la vie de son fils, lorsqu'elle en avait encore la garde.
Je sais qu'il était très violent. Une gifle ne suffisait pas. Des fois, il était tellement violent qu'il s'est apprêté à riposter pour me taper dessus. Donc, le seul moyen de remettre les choses en place, c'était d'y mettre un ou deux coups de poing. Et puis bon, peut-être plus. Mais c'était le seul moyen de le faire obéir, quoi, de calmer sa violence, quoi. Parce qu'une violence comme ça, c'était pas possible.
En psychanalyse, on utilise parfois, je crois, l'expression de l'archéologie de l'esprit. À écouter cette mère, on entend la violence et l'abandon comme les premières pierres de l'existence de Frédéric Bourdin. Est-ce que c'est une donnée essentielle, ce qu'on vient d'entendre ?
Je pense. Mmh. Et je pense qu'il a dû être violent avec sa mère parce qu'il voulait son attention.
Elle le dit, en tout cas.
Oui. Ouais.
Bah, vous avez vu comme... Parce qu'elle dit de la façon dont elle répond à ça. Coup de poing. C'est
énorme. Elle n'a pas voulu cet enfant. Elle avait 17 ans, elle a gardé, mais elle n'a pas voulu, elle n'a jamais regardé.
Est-ce que vous pensez que dans des affaires comme celle que nous avons racontée aujourd'hui, le cas Frédéric Bourdin, les médias qui forcément sont friands d'histoire, alors jeter la pierre, c'est aussi le rôle des médias que de raconter l'histoire réelle. La réalité, le réel, il passe par les histoires. Quel rôle ça a joué les médias, à votre avis, dans cette affaire-là ?
Je pense que ça a joué, c'est-à-dire qu'il est devenu acteur, entre guillemets. Il est pas acteur. Il n'existe pas. Il n'a pas d'identité, mais le média lui donne un rôle.
Une tribune, bien sûr.
Mmh. Barry a été knighted par la Queen Victoria. Enfin, il est devenu Sir James.
Anobli,
voilà. Mmh. Et je pense que c'est quand même des personnalités spéciaux, enfin vraiment très intelligents.
Oui, spéciaux, c'est le mot qu'on puisse dire.
Oui,
ces gens sont différents, on va dire. Voilà.
Oui, différents. les médias donnent la place, enfin, ont beaucoup encouragé à faire ça aussi, quand même.
Est-ce que ça veut dire que mythomanie et mégalomanie vont de pair ? C'est les mêmes notions ?
Oui.
D'accord.
Oui. Toute puissance, il peut tout faire. Il peut être tout et il peut tout faire.
On va l'écouter une nouvelle fois, Frédéric Bourdin, interviewé par Thierry Ardisson cette fois dans l'émission Tout le monde en parle. C'était le 9 avril 2005.
Je sais très bien ce que je fais.
Ouais.
Je sais très bien que ce que je fais est en train de me détruire petit peu à petit peu parce que malheureusement, quand j'aurai 95 ans, je ne pourrai plus me faire passer pour un garçon de 15 ans. Je sais malheureusement bien avant ça, c'est-à-dire je ne me donne plus beaucoup de temps.
Ouais.
Je suis assez pessimiste sur mon futur, mais assez réaliste, parce que ce n'est pas le fait de me décevoir et de savoir, je sais parfaitement ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Et je sais très bien que le futur pour les gens comme moi, enfin les gens qui sont en marge de la société, pas forcément comme moi, ne sont pas c'est pas vraiment joli ce qui leur arrive.
Alors, c'est une sorte de suicide mental. Est-ce que selon vous, là, on entend un ultime appel au secours ou c'est une mort à petit feu ? Qu'est-ce que c'est ? Une résignation ou un appel au secours ?
Ce qui est un peu étrange avec Frédéric Bourdin, il a l'air très conscient de ce qu'il fait.
Oui, il l'explique.
Ouais. Et aussi tout ça. Mais il est complètement bloqué. Il ne peut que répéter. Et ça, c'est ça la tragédie. Il n'est pas sur la voie de la maturation. Alors, la maturation implique de renoncer à la toute-puissance. Il ne peut pas, il est extrêmement fragile. Et il lutte contre la dépression. C'est comme ça qu'il lutte contre.
Si vous aviez été expert, psychiatre pour le coup, ce que vous n'êtes pas, hein, mais pour la justice, qu'est-ce que vous auriez dit ? Il n'est pas responsable de ses actes ? Ou il l'est ? si je puis dire, non pas dans le jugement moral, mais dans le constat. Il est responsable de ce qu'il fait ou il est la victime d'un destin ?
Écoutez, en tant que psychanalyste, j'ai beaucoup de difficultés à juger comme ça, à le dire. Oui, il a fait des mal à des gens, etc.
Je comprends.
C'est que il est à la fois responsable, mais il est à la fois pas responsable, puisqu'il n'a pas d'identité. C'est un tragédie. Et il lutte pour rester en vie, et on ne sait pas. Alors, ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il a eu 5 enfants, qu'il était marié, et même maintenant, qu'est-ce qu'il il est resté marié ? Qu'est-ce qui se passe ? Enfin, on ne sait pas.
Alors, justement,
cette suite-là.
J'allais y venir. La suite appartient maintenant à son intimité, hein, à son histoire personnelle. Néanmoins, il finit finalement par se marier, fonder une famille. Il a 5 enfants. Qu'est-ce que ça vous inspire comme épilogue ? Vous dites vous-même, je suis étonné.
Ah oui. Non, mais c'est incroyable. C'est 6 enfants à lui ?
Oui. Et donc, ça vous étonne. Après une histoire comme ça, vous vous dites c'était improbable.
Mais quelque part, non. Parce que, en fait, c'est vraiment Peter Pan. Parce que Peter Pan se collectionne des petits garçons, enfin, les petits-enfants. Il adore les enfants. Donc, il fabrique lui-même les enfants, puisqu'il peut. Enfin, mais je pense qu'il ne va pas rester là. Enfin, je ne sais pas ce qu'il va devenir. Mais sans thérapie, sans se déprimer, vraiment, où il se dit, je ne peux plus faire ça. Je renonce à ça. Je veux changer. Je veux grandir. Il est condamné sans ça.
Bon, alors, on a parlé tout à l'heure de son admiration pour Michael Jackson. Alors, il y a des millions qui adorent, et à juste titre, ce géant de la pop musique. Mais enfin, Michael Jackson, les enfants, il était proche d'eux. Hein. Donc proche d'eux, ça veut dire sans aucun jugement, ni arrière-pensée, proche d'eux. Et en même temps, ce garçon qui ne doit pas sortir de l'enfance adore Michael Jackson. Il y a des liens comme ça qui...
Bien sûr, c'est un modèle.
Un modèle,
Michael Jackson, c'était pareil. Il a été tapé par son père. Il a changé de couleur. Regardez ce qu'il a fait. Il s'est fabriqué. Il était un beau garçon, un vrai garçon.
Il a changé son physique.
Il est devenu
martyrisé son visage.
De monstre physique. Enfin, c'était vraiment. Et puis il en est mort quand même.
Monstre physique, ça vous appartient. On gardera comme de lui le souvenir de ce danseur merveilleux, hein, qui même avec son visage refait, il était fabuleux. On l'aime tous. Merci infiniment, Kathleen. Quel est l'aîné ? Et votre livre s'appelle Peter Pan ou l'enfant triste. On comprend mieux pourquoi après notre conversation. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le CAF Frédéric Bourdin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Merci à Jérémy Guillon qui était à la technique aujourd'hui.